Et demain, une création radiophonique de l'Assemblée régionale des radios associatives en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée.
Vous connaissez sans doute ces instruments ? Ce sont les rois et reines des fêtes et des bals dans notre région. Mais d'où viennent-ils ? Quels sont leurs secrets et leur avenir ? Découvrons tout cela en compagnie de Victor Laroussini, Jean-Louis Claverolle, Alain Roussel et Daniel Lodo. Qu'ils soient musiciens, professeurs ou fabricants, ce sont tous des passionnés. Débutons avec la cabrette.
Alors, la cabrette, dans sa forme actuelle, est née fin du 19e à Paris, lors de la révolution industrielle. Plusieurs centaines de milliers d'Auvergnats sont montés à Paris et ils sont montés avec leur culture, leur gastronomie, leur musique. Et à cette époque-ci, il y avait près de 200 balles musettes à Paris. Ces balles musettes étaient jouées par la cabrette, parce que la cabrette, son vrai nom, son nom d'origine, c'est la musette. Et donc, le cabrettaire, qui était un musicien professionnel, animait les balles musettes, il y en avait à peu près 200 donc dans Paris. L'accordéon est arrivé au début du 20e d'Italie avec un dénommé Charles Peguri, et qui avait la particularité de venir de la partie piémontaise de l'Italie. Dans cette partie du piémontais, on parle l'occitan, donc ils se sont compris avec les Auvergnats, et au début l'accordéon a accompagné la cabrette dans les balles musettes, et petit à petit elle l'a chassé entre guillemets, parce qu'elle s'est adaptée au rythme nouveau, tango, foxtrot, etc. Mais le nom est resté, et donc on parle toujours aujourd'hui encore de balles musettes. La cabrette, c'est essentiellement un jeu de soliste. Son jeu est l'un des plus compliqués des cornemuses, mais aussi des plus captivants qui soient en France. Plusieurs générations de musiciens ont développé sur cette cornemuse une technique et un style très particulier qui est difficilement transposable sur un autre genre de cornemuse. Donc quand on joue de la cabrette, on sait jouer d'à peu près toutes les cornemuses, mais l'inverse n'est pas vrai. C'est un instrument qui est, assez compliqué à jouer dans sa technique, mais ce qui lui permet d'avoir des nuances que n'ont pas les autres cornemuses. Moi, personnellement, je joue de la cabrette parce que mon papa jouait un petit peu de cabrette, mais surtout d'accordéon. Mais d'autres musiciens, il faut bien que quelqu'un commence. Donc, effectivement, quand on baigne dans une atmosphère musicale où on entend de la cabrette, de l'accordéon, effectivement, on n'est plus en train à jouer de cet instrument. Moi, mon fils joue de la cabrette, mon petit-fils joue de la cabrette, mais ce n'est pas catégorique. La cabrette a été reconnue au patrimoine culturel immatériel de la France en juillet 2018, et c'est grâce à sa vivacité, je vais dire, c'est parce qu'elle est bien vivante aujourd'hui, qu'elle est présente dans tous les actes de la vie, qu'elle est maintenue et qu'elle est enseignée, qu'elle est aujourd'hui au patrimoine. Voilà, c'est pas parce que c'est un instrument ancien qui serait dans un musée, non. C'est quelque chose de bien vivant qui vit encore, il a fallu le démontrer. Et cet instrument, effectivement, est enseigné aujourd'hui de 7 à 77 ans. Il y a des jeunes qui sont intéressés par cet instrument, mais également des plus anciens. Lorsqu'ils sortent de la vie active, dont c'était leur rêve peut-être toute une vie, se mettent à jouer de la cabrette. L'avenir de la cabrette, aujourd'hui, la cabrette est maintenue, c'est-à-dire fabriquée de façon artisanale, comme elle a été toujours fabriquée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a que des matériaux nobles. Dans sa fabrication, la cabrette n'a pas évolué. Elle est toujours restée la même, en fait. C'est ce qui fait aussi son charme. Et quant à la transmission, à l'enseignement, ce qui attire aussi les jeunes, c'est que la cabrette a épousé un peu la vie qui l'entoure. Aujourd'hui, elle ne joue pas que des bourrées, ni que des valses, ni que du bal musette. Elle joue aussi des morceaux modernes. Il y a eu des enregistrements, on jouait du Goldman, on peut jouer des tas de choses avec la cabrette, ce qui attire un peu aussi les jeunes. Voilà. On n'est pas forcément obligé de jouer que du répertoire traditionnel. Bon, c'est plus compliqué parce que c'est pas un instrument qui est complet comme l'accordéon. Ou l'accordéon, on peut jouer du musette, du contemporain, du classique, du bac. À la cabrette, on peut jouer du bac, on peut jouer aussi un peu de moderne, entre guillemets. Voilà, donc ça attire aussi un peu les jeunes.
La cabrette ou la musette est composée de trois parties. Vous avez la partie soufflée, vous avez la partie poche, sans elle, c'est pas une cornemuse, et après la partie tuyau mélodique. Donc ces trois ensembles demandent des outils complètement différents. Donc la plupart du temps, pour faire cet instrument, il faut fabriquer tous ces outils, puisqu'il n'existe pas d'outils dans le commerce pour faire ces instruments. Donc la partie soufflée, ben, c'est beaucoup de travail de menuiserie, de marqueterie. Donc le soufflé se compose en trois parties. Il y a trois planchettes. Donc ça, c'est la première planchette que vous voyez, c'est celle qui va se trouver sous le bras. Ces planchettes vont être jumelées ensemble, relier tout ça par un cuir pour pouvoir actionner le soufflé et remplir la poche d'air. Donc il y a un travail de bourrelier, bien sûr, puisque vous voyez que quand je monte ce soufflé, ben, il y a une partie de cuir. À l'intérieur, vous avez du crin de cheval qui va vous permettre de protéger le coude du musicien. Donc pour pouvoir faire ces soufflets, ben, il faut des gabarits. Donc là, j'ai des gabarits qui me permettent de tracer mes bois. Alors c'est des planchettes, la plupart du temps on emploie du noyer parce que c'est un bois qui est très léger. Voilà, très résistant et très léger. Mais bon, ça peut être des fruitiers aussi, comme le cerisier, le pommier, de temps en temps du frêne. Alors vous voyez que ceux-là, ils sont décorés parce que là, c'est une demande spéciale. Donc on fait en fonction de la demande des musiciens. Donc ça peut être de la marqueterie. Là, c'est du hêtre échaudé. Donc on laisse pourrir le bois. Et alors, en laissant pourrir le bois, il y a des champignons qui se mettent dans le veinage. Et à un moment donné, on arrête la pourriture avec de la résine, on stabilise le bois pour faire une décoration. Donc chaque musicien aime bien personnaliser son instrument jusqu'au soufflé. Alors on me demande des personnages, on me demande des fagnons, des laboureurs, des voilà. Donc on s'adapte en fonction des demandes, mais ça peut être des sculptures, des gravures aussi. Il y a toutes ces différentes décorations qu'on fait sur ces soufflets. Donc ça, c'est une grosse partie de menuiserie, en sachant qu'à l'intérieur, il y a un clapet anti-retour, parce que dans un soufflet, quand on ouvre le soufflet, l'air pénètre à l'intérieur, mais il faut qu'il ressorte, mais qu'il ressorte pas par là où il est rentré. Donc à l'intérieur, il va y avoir un clapet anti-retour qui va fermer et qui va relâcher l'air à l'extrémité du soufflet. Alors ça ressemble à un soufflet de forge, ça ressemble à un soufflet de barbecue, de cheminée. La seule différence, c'est que c'est des soufflets qui sont très 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 hermétiques. Puisque si ça fuyait de partout, ben, le musicien passerait son temps à pomper et pas à jouer. Donc dans ces soufflets-là, il y a 200 clous. Pour une partie, il y a 3 épaisseurs de cuir. Et on emploie du cuir de chèvre. Le cuir de chèvre a l'avantage d'être un cuir très peu poreux. Et ce cuir de chèvre, il est tanné spécifiquement dans une tannerie pour les cornemuses. Voilà, donc tout ça, il faut être très minutieux, puisque ce clapet anti-retour pèse 12 grammes, de manière à avoir le poids bien équilibré pour pouvoir fermer derrière. Donc pour être très très précis dans la fabrication de ces instruments. Moi, je fais l'instrument au complet, c'est-à-dire que moi, ça part de la grelottière, au soufflet, au sac, au pied de cabrette, aux hanches, et après, toutes les têtes sculptées, les incrustations d'étain. Elle part de chez moi, elle est finie. La plupart des bois pour les souffler, ben, c'est des copains quand ils ont un noyer ou qui. Donc ils m'appellent en disant bon ben écoute, si t'es intéressé, j'ai des arbres pour toi. Et pour ce qui est des buis, c'est moi qui vais le chercher. Alors le buis, c'est un bois qui est très dense, c'est un bois qui est très dur, mais qui a un seul inconvénient, c'est qu'il faut qu'il ait 20 ans de séchage. Je ne peux pas le travailler avant. 20 ans de séchage, ça veut dire que le bois que je récolte aujourd'hui, ben, c'est pas moi qui vais le travailler, je le récolte pour la génération future. Mais moi je travaille les bois que les anciens m'ont donné. Moi, je m'y suis mis, donc je me suis dit qu'un jour, il y a quelqu'un qui passera à l'atelier en disant ben, « j'aimerais fabriquer cet instrument ». Moi, je l'ai eu fait, donc je vois pas pourquoi il n'y avait pas quelqu'un qui serait intéressé par fabriquer. Il n'y a pas d'école pour apprendre à cet instrument, ça s'apprend avec les anciens, ça, c'est un savoir-faire qui, j'espère, se transmettra, mais voilà, on est un peu inquiet sur la fabrication, quoi. Parce qu'il y a pas mal de musiciens, on essaye de motiver les jeunes à jouer de cet instrument, mais la fabrication, ça c'est notre paire de manches. Parce que pour fabriquer cet instrument, il faut déjà maîtriser le métal, il faut fabriquer tous les outils. Après travailler la menuiserie, la marqueterie, les incrustations, il faut être bourrelier, il faut être tourneur, il faut savoir se servir d'une machine à coudre parce que ces instruments sont recouverts de velours, donc il faut être couturier, il faut être sculpteur, graveur. Voilà, ça englobe énormément de métiers et puis principalement il faut être musicien. Puisqu'une fois que vous avez fait l'instrument, il faut savoir aussi s'en servir, pour l'essayer. La cabrette ne se joue pas comme les cornemuses lambda. Dans les cornemuses, vous avez des doigtés fermés, des doigtés ouverts, des doigtés semi-fermés, semi-ouverts. La cabrette a un doigté où il y a un picotage, un rappel sur la note, qui fait que ben, ces outils-là, quand ils sont bien maîtrisés, ben, ils font chanter la cabrette. On a fait la maison de la Cabrette et le musée des Cornemuses. Et dans ce musée, il y a une partie atelier où j'explique un peu la fabrication. Et alors, on a beaucoup d'écoles qui viennent. C'est par ce biais-là qu'on essaye de transmettre et de motiver certains et de leur dire on existe. Donc, si vous êtes intéressé. Ensuite, bon, il y a des professeurs qui apprennent la Cabrette à des jeunes. Ben, c'est notre patrimoine. C'est avant tout notre patrimoine. Donc, tout homme a des racines. S'il n'a pas de racines, c'est un homme perdu. Donc, nous, on a ce patrimoine musical et il faut transmettre aux générations futures. On essaye de transmettre, mais c'est toujours compliqué. Mais voilà, cet instrument est là et il faut passer d'école en école, d'exposition en exposition, de concert, essayer de valoriser cet instrument.
Place maintenant à un autre instrument, le hautbois, autrement appelé lugraile.
Alors, le lugraile, c'est le hautbois des Monts de la Côme, tout simplement. Voilà, c'est un hautbois, donc un instrument à hanche double et qui a été retrouvé dans les Monts de la Côme et qui fait partie des hautbois occitans. Ça ressemble à une trompette en bois avec une hanche double, c'est-à-dire deux palettes de roseaux pour jouer, quoi. Ce qui est intéressant dans le hautbois, disons, c'est que c'est un instrument où le musicien est vraiment acteur du son et de la musique qu'il fait, quoi. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est ça aussi qui est la difficulté. C'est ça qui fait, je trouve, le charme de l'instrument, voilà. C'est le musicien qui fait le son à travers l'instrument. Disons que l'instrument est un porte-voix. Disons, un grand joueur de hautbois disait qu'on doit jouer comme on chante ou comme on parle. Le graille est un instrument pour lequel la tradition s'est arrêtée. C'est-à-dire que quand on a commencé à enquêter dans les années 70, les derniers joueurs de graille étaient morts. Donc, il n'y a pas eu de continuité de la transmission. Ça a eu deux effets, c'est-à-dire qu'on a été obligé de repartir de zéro au niveau de la façon de jouer, de quelles hanches mettre dessus, etc. Et donc, on pouvait faire ce qu'on voulait, en fait, puisqu'il y a eu cet arrêt de la transmission. Bon, il y avait quand même le répertoire traditionnel qui a été continué par les chanteurs ou même les joueurs d'accordéon, hein. Sauf que c'était pas des hautbois qui jouaient, donc du coup il a été un petit peu déformé, voilà. Les instruments traditionnels, on a l'avantage d'avoir, même si il y a plus de fonction sociale automatique, il y a quand même des pratiques sociales. Par exemple, bon, naturellement, les hautbois vont jouer pour le carnaval, enfin des choses comme ça, ou pour les feux de la Saint-Jean. Donc, on a quand même des occasions faciles de recréer des pratiques sociales. Ce que n'ont pas, par exemple, les joueurs de hautbois classiques, et qui ont, eux, des structures de transmission, mais ils n'ont pas les pratiques sociales associées. Donc, disons que certainement qu'avec les instruments classiques, on se sauvera ensemble, c'est-à-dire en échangeant, en apportant chacun ce dont on dispose. Voilà. C'est un patrimoine utilisable, quoi. Utilisable. Donc, il y a le côté un petit peu enraciné. À partir de là, on peut se mettre à rencontrer les autres, quoi. Je veux dire, c'est une base locale, disons. Ça fait partie de l'identité du coin, si on veut. Et puis c'est à partir de là que on peut construire quelque chose, plutôt que de partir de rien. C'est un élément de diversité, disons, à apporter au monde contemporain, quoi, à la musique contemporaine. Ici, les instruments traditionnels ont un avenir. C'est parce qu'ils vont réussir à aller jouer avec les autres instruments et les autres musiques. Souvent, les musiciens traditionnels qu'on connaît et qu'on a rencontrés, qu'on a collectés, même s'ils ne jouaient pas du hautbois, eh ben, ils ont eu l'état d'esprit de transmettre tout ce qu'ils savaient. Alors moi, je transmets tout ce que je sais sur le hautbois à ceux qui veulent bien, qui s'y intéressent, quoi. La motivation, disons, c'est d'arriver à faire progresser les gens de l'atelier, sachant qu'il y en a qui en savent presque autant que moi au niveau musical. Mais le fait de progresser ensemble, quoi. C'est pour ça que c'est plutôt des ateliers plutôt que des cours individuels, parce que franchement, on essaie de faire avancer le jeu biblique ensemble, quoi. On imagine qu'on ne se sauvera pas seul, c'est-à-dire c'est pour ça qu'on a créé, d'ailleurs, à Bielmeul-d'Agout, ici, au centre de la région Occitanie, il y a 3 ans, on a créé la Fédération des hautbois populaires occitans et catalans, avec le but de sauver les instruments et leurs pratiques, et en se disant qu'on ne se sauverait pas tout seul, chacun dans son coin, mais en échangeant. Et puis aussi, on s'est dit que finalement, le travail qu'on faisait, c'était un travail d'intérêt public. Alors c'est pour ça que la région Occitanie, Pays catalan, nous aide au niveau de la fédération. Alors elle ne peut pas nous aider au niveau où elle le souhaiterait. Voilà, on va dire les choses comme ça. Mais ça veut dire que les instruments, ils font partie du patrimoine culturel, matériel, avec les instruments eux-mêmes, mais ils véhiculent une musique qui fait partie du patrimoine culturel immatériel, et on travaille aussi dans ce sens, et ça fait partie du patrimoine tout court de la région. On ne se sauvera pas non plus sans les cornemuses, qui ont aussi leurs problèmes de transmission, et sans les percussions aussi, qui ont aussi leurs problèmes de transmission. Donc on essaie d'avancer ensemble et serrer les uns contre les autres. Il nous faut des élèves jeunes et il nous faut des enseignants aussi. C'est les deux parties qu'il faut arriver à construire. Comme je dis, on est ouvert à tout le monde, quoi, et on va vers tout le monde.
Et maintenant, parlons de le crabe.
Bon, il faut savoir que c'est un instrument qui on sait qu'il existe depuis longtemps. On a les premières traces à la fin du XVIe siècle, mais il devait exister avant sous une autre forme peut-être, mais la forme telle qu'on la connaît, donc avec une poche en peau de chèvre entière, un hautbois devant et un bourdon d'épaule, donc c'est fin XVIe siècle. L'instrument, c'était pas complètement perdu. Il y avait encore des musiciens qui le jouaient dans les années 60, il n'y en avait plus beaucoup. On en a repéré entre 350 et 400 avant la guerre de 14. Il n'y en avait plus qu'un ou deux dans les années 50. Mais de suite, les années 60, il y a des groupes folkloriques qui ont commencé à reprendre l'instrument de musique. Et puis très vite, il y a eu des recherches dès les années 65. Quelqu'un qui s'appelait Charles Alexandre, qui était un breton, qui jouait du biniou en Bretagne, qui a débarqué dans la région, il s'est intéressé à cet instrument. Il a fait des recherches sur la crabe pendant 10 ans. Le seul problème, c'est que Charles s'était fâché avec tout le monde et que du coup, il n'a pas voulu transmettre ce qu'il avait collecté. C'est un peu comme une tombe, quoi, en fait. Il a fallu qu'on refasse toutes les recherches à partir des années 79. Et ensuite, on a racheté les collections de Charles-Alexandre en 2001 et on a vu qu'on avait à peu près tout retrouvé, ce qu'il avait trouvé lui aussi. Et du coup, ces recherches-là ont permis, et ces expériences de faire revivre l'instrument, ont fait qu'au début des années 80, il n'y avait que 2 ou 3 personnes qui jouaient de la crabe. Et aujourd'hui, il y a plus de 300 personnes qui en jouent. Donc, ce qui veut dire que les gens l'ont récupéré comme une espèce d'instrument emblématique de l'Occitanie, même s'il correspondait qu'à un petit coin d'Occitanie, c'est-à-dire le sud du département du Tarn, le nord de l'Aude, une petite partie de l'Hérault et de la Haute-Garonne. Les gens l'ont repris comme vraiment un emblème. Pourquoi ? Parce qu'il est impressionnant, il est puissant, il a un timbre très particulier. Bon, je ne veux pas être chauvin, mais quand on écoute les cornemuses, souvent on trouve que c'est nasillard, tout ça. Le timbre est plus beau que d'autres cornemuses, je dirais. Et puis le répertoire qui correspond est intéressant, tout ça. Donc ce qui veut dire qu'il y a des gens qui ont eu envie d'en rejouer, donc du coup des gens qui sont installés pour le fabriquer, des facteurs d'instruments, des luthiers, et puis tout un système pour enseigner à jouer de cet instrument de musique. Donc déjà à le fabriquer, puisque même s'il faut un luthier pour faire le hautbois et le bourdon, il faut un tour, ce n'est pas à la disposition de tout le monde. Tous les musiciens qui en jouent peuvent quand même participer à sa fabrication. Avec, notamment en trouvant une peau de chèvre, ça ne se vend pas dans le commerce. Et en fabriquant les anges de façon à ce qu'elles donnent le plus beau timbre, le timbre le plus adapté à la région, à la culture du pays, quoi. Donc ce sont des anges sculptés. Et puis la décoration de l'instrument, là, il y a toute une part personnelle à apporter dans la création, et puis ensuite créer du répertoire pour cet instrument. Et là, nous, par exemple, à la Talbert, on a créé énormément de morceaux pour cet instrument que les gens croient même du coup aujourd'hui que c'est des morceaux traditionnels. Pareil, il y a la possibilité d'apprendre à jouer l'instrument. Donc il est enseigné dans les écoles de musique. Tout le monde peut l'apprendre avec une pédagogie étudiée, puisque ce sont des professeurs de musique qui ont un diplôme d'état de professeur de musique. Bon, moi je suis optimiste, mais je pense que quand on regarde quand même autour de nous aujourd'hui, c'est le même constat qu'on peut faire pour la langue. En tout cas pour la musique, on se rend compte que il y a de plus en plus de gens qui font aujourd'hui de la musique traditionnelle sans s'emmerder avec ces instruments traditionnels parce que c'est compliqué. On a beaucoup plus de mal à régler une crabe ou un hautbois qu'une guitare, qu'un violon. Ça demande beaucoup plus de travail, quoi, beaucoup plus d'apprentissage. Mais c'est peut-être passager ça. Mais c'est vrai que quand tu regardes la physionomie un petit peu des groupes occitans de jeunes aujourd'hui, il y a beaucoup plus de harpe, de violon, de guitare, d'accordéon, diatonique, que de hautbois, que de crabe. Ensuite, notre constat, c'est qu'il y a eu beaucoup de luthiers qui sont installés dans les années 70, et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y en a de moins en moins. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de trouver une crabe ou un graillet ou une cabrette que 10 ans en arrière. Dans tout ce qui est culturel, on fait un pas en avant, 2 pas en arrière, mais des fois on fait 2 pas en avant et 1 pas en arrière. On avance quand même, quoi. Et puis, il ne faut surtout pas que les gens perdent de vue cette idée, donc du coup, que pour que ça vive, pour que ça fonctionne, il faut créer autour de ça. Et il ne faut pas que ce soit de la musique traditionnelle figée. Il faut créer. Et pour créer, ben, il faut faire des paroles, il faut faire des musiques, utiliser les instruments traditionnels, mais peut-être pas que. Il y a quand même quelque chose d'important aussi dans la création, c'est le métissage, qui est pour moi un truc important. C'est pour ça que pendant des années, on a travaillé avec des Brésiliens aussi. Si on trouve, mettons, qu'une percussion brésilienne sonne mieux avec cette musique-là qu'un tambour de garde champêtre, ben laissons tomber le tambour de garde champêtre. Prenons un sourdo ou, je sais pas, ou un pandeiro brésilien. Et pareil avec des instruments électroniques. Ce qui compte, c'est qu'on garde ce que j'ai dit tout à l'heure, la langue, la danse, garder des timbres quand même qui sont importants pour la musique du pays, comme on garde la langue, qui est aussi une musique, mais on garde la crabe parce que c'est représentatif de notre région. On peut mélanger, on peut métisser, ça peut qu'apporter des choses intéressantes.
Le documentaire a été réalisé par les radios Air d'Autan et Radio Margeride dans le cadre du partenariat entre l'Assemblée régionale des radios associatives et la région Occitanie, Pyrénées, Méditerranée.